Alors c'est comme communisme. Communisme, vous nous direz si vous le mettez au singulier ou au pluriel. Et alors derrière le mot, la notion de communisme, deux questions simples pour nous. Qui est communiste? Et qu'est-ce que c'est que d'être communiste?
C'est pas des questions simples, hein. Et sur votre première question, sur le communisme à mettre au pluriel, c'est pas moi qui décide de mettre un S à communisme, c'est l'histoire. Dans la mesure où le communisme, c'est peut-être la plus vieille affaire de l'histoire de nos sociétés. Il a existé à l'époque de l'Homo sapiens sapiens, la mésolithique. Des esquisses de formes de société qui étaient, disons, qui étaient communistes, dans la mesure où le communisme, ça signifie d'abord et fondamentalement la communauté des biens. Le communisme, très tôt, est un idéal en portant la communauté des biens. C'est pourquoi Marx et Engels eux-mêmes pensent à Platon. Pensent à Platon lorsque Platon décrit la cité idéale. Platon introduit une idée qui est une idée communiste, c'est l'idée de la communauté des biens. Et à quoi il fait une allusion? Dans le manifeste. C'est-à-dire que les femmes sont à tout le monde, les enfants sont à tout le monde, etc. Alors on peut s'interroger évidemment sur la proscription de l'inceste. Bon, fermons cette parenthèse. Communisme au pluriel, ça veut dire aussi toutes les formes sociales. Qu'on rencontre un peu partout dans le monde, notamment les communautés paysannes. Dans les communautés paysannes, dans notre contexte culturel, nous avons l'exemple sur lequel on a insisté, notamment pendant la guerre d'Algérie, de ce qu'on appelle la Djemaa berbère. La Djemaa berbère, c'est le fait que le village se constitue d'une manière non étatique. C'est un conseil qui se réunit, où les anciens ont un certain privilège de la parole, les décisions se prennent là, et les terres qui appartiennent à la cité ne sont pas des propriétés individuelles, ce sont des terres communes. Et on trouve des exemples de ce type de société, avec toutes les nuances qu'on peut imaginer, dans les pays de l'Amérique andine, de l'Amérique latine plus générale, dans certaines sociétés indiennes, et dans un assez grand nombre de sociétés asiatiques. On peut se dire que les projets de cité idéale ont très souvent pensé à retrouver ces pratiques politiques-là et à leur donner une extension moderne. Voilà pour ce S. Maintenant, le communisme. Alors le communisme, il apparaît dans la pensée politique au XIXe siècle, avec un certain nombre de hautes figures. En France, ce sont des gens comme Fourier, comme Cabet, toute la tradition des Saint-Simoniens, Proudhon par la suite, bien que lui n'acceptera pas ce titre. Et puis, en Allemagne, avec le mouvement autour de Weitling, et puis ensuite de Grün, etc. Tous ces gens-là se disent communistes. Et par rapport à cette définition du communisme, Marx et Engels s'affirment non communistes. Ils récusent le qualificatif même de communisme. Parce qu'ils reprochent à ce communisme-là d'avoir, en quelque sorte, absorbé, intériorisé, une tradition qui est une tradition religieuse, c'est-à-dire la tradition du christianisme, qui se montre dans le fait, par exemple, que des formations comme la Ligue des communistes, en guise de programme, se dotent de ce qu'elles appellent elles-mêmes un catéchisme. Catéchisme. Et les valeurs qui sont développées par la Ligue des justes met comme valeur fondamentale l'amour. L'amour, alors on recherche l'amour, tout ça, naturellement, ne convient pas du tout aux jeunes gens qui sont en train de fonder une théorie politique sur un matérialisme intransigeant. Et le premier travail de Marx et Engels va consister en ce que par la suite on appellera l'entrisme, c'est-à-dire à l'intérieur de la Ligue des justes, ils vont faire un travail d'opposition sur la formule justement du catéchisme, au terme duquel au catéchisme ancien se substituera le manifeste du Parti communiste qui permettra la transformation, la mutation de l'ancienne Ligue des Justes en Ligue des communistes. Ça, c'est le point important, parce qu'alors, à partir de ce moment-là, sur les bases qui leur sont propres, Marx et Engels se déclarent communistes. Et le manifeste du Parti communiste, le mot « communiste » dans cette expression est à la fois une reprise et une affirmation qu'on a affaire là vraiment à du communisme, dont à l'avenir il faudra se réclamer. Mais qu'est-ce que c'est être communiste? Ça, c'est une question naturellement beaucoup plus difficile. La réponse qui se présente immédiatement à l'esprit, c'est que le communisme définit la stratégie et la théorie politique que l'on trouve chez Marx et Engels. Et à ce moment-là, le communisme s'affirme par distinction d'avec, disons, non pas son antagoniste, mais son compétiteur, c'est-à-dire le socialisme. Pendant très souvent, les deux termes se sont recoupés. Regardons par exemple les partis communistes. Les partis communistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fondé des sociétés socialistes. Aucun d'entre eux n'a jamais prétendu fonder une société communiste, parce que le communisme, alors au sens où Marx le suggère dans le Capital, ben c'est pas pour demain. C'est lorsque l'homme cessera de vivre en quelque sorte dans l'état de préhistoire où il était pour entrer dans l'histoire, c'est-à-dire une histoire qu'il aura fait lui-même. Alors on ne peut pas dire que les sociétés socialistes correspondent à cette étape-là. Mais en même temps, le socialisme, au sens où on l'entendra généralement, c'est l'acceptation de l'idée qu'on ne peut pas précisément transformer les sociétés pour en faire sortir tout de suite le communisme. D'où cette ambiguïté des communistes qui se disent socialistes et puis des socialistes qui sont leurs compétiteurs sur des bases qui sont celles du réformisme, hein, considérant que le capitalisme ne peut pas être abattu, qu'il doit être aménagé, un peu dépassé, toutes ces salades que nous entendons d'ailleurs aujourd'hui et qu'on entendait hier et avant-hier. Et le communisme s'appuie, me semble-t-il, fondamentalement d'abord sur une position matérialiste, savoir que ce ne sont pas les idées qui mènent le monde. Jean Delhomme disait « Les idées qui mènent le monde ne sont pas des idées ». Ça, c'est ce qui a été liquidé par Marx et Engels, c'est ce qui fait la grande différence entre toute la pensée que nous avons héritée, disons, des Lumières, des philosophes du XVIIIe siècle, la pensée du premier communisme dont j'ai parlé il y a quelques instants. Ce sont les forces matérielles qui déterminent les hommes et qui déterminent les sociétés. Ce qui, naturellement, ne veut pas dire, comme on l'a avancé parfois, bon, des raisons de caricature ou de polémique ignorante, que les idées ne sont rien. Dans des textes même de la jeunesse de Marx, Marx indique que les idées peuvent devenir, en tant qu'idées, des forces matérielles. Il faut qu'elles soient reprises à leur compte, naturellement, par un mouvement révolutionnaire. Et c'est quelque chose aujourd'hui dont les intellectuels devraient se souvenir. Non pas entretenir l'idée qu'ils peuvent transformer la société, ils peuvent seulement contribuer à avancer des idées qui n'auront un débouché que si le mouvement de masse, c'est-à-dire un mouvement matériel, les rencontre, les prend à son compte et les fait parvenir à leur aboutissement. Le communisme, c'est ça, c'est aussi la volonté d'en finir avec la propriété, qui est la base même de l'exploitation, en finir avec le rapport de classe, non seulement le rapport de classe où le prolétariat est dominé par la bourgeoisie, mais avec le rapport de classe en général lui-même. C'est-à-dire créer une société et un pouvoir qui ne soit plus fondé sur les classes. C'est-à-dire où il n'y ait pas d'État qui serve de moyens de répression, d'inculcation idéologique sur une autre classe. C'est ce que suggère Lénine, notamment lorsqu'il parle pour l'État prolétarien, de demi-État ou d'État commune. L'idée d'État commune est une idée intéressante parce que, au cœur de la tradition historique du communisme, il y a l'idée de la commune, telle qu'on le voit à la Commune de Paris. Lorsque Marx pense à l'État, lorsqu'il pense à la dictature du prolétariat, il se souvient que, ou il remarque que les idées fondamentales du communisme sont présentes. Elles sont présentes dans la mesure où le peuple qui se donne des représentants doit avoir le droit absolu de les dénoncer ou de leur enlever leur représentation s'ils ne remplissent pas les contrats auxquels ils se sont engagés. Et là, c'est une idée qui aurait fait du bien à toutes les démocraties, à toutes les républiques, si elle avait été retenue. D'autre part, une vie économique qui soit une vie sans inégalité profonde. C'est-à-dire que chacun soit estimé, rétribué en fonction de l'apport qui est le sien à la société. Un apport qui peut ne pas être un apport productif, qui peut ne pas relever d'un travail salarié, mais qui n'en est pas moins important. Et c'est la raison pour laquelle Marx reprendra sur ce point un certain nombre de formules saint-simoniennes. Donc le communisme, on peut le définir de ce point de vue-là comme un idéal vers lequel doit tendre le mouvement des travailleurs, le mouvement progressiste en général, et qui sera la condition de l'accession à une société enfin désaliénée, une société qui en aura fini avec l'exploitation et qui pourra donc se consacrer finalement à ce que Saint-Just appelait le bonheur et qu'il ne faut pas craindre, de reprendre aujourd'hui. Il n'y a aucun déshonneur à dire qu'on milite pour une société heureuse. On ne milite pas pour une société où on serait tous emmerdés plus que maintenant. Hein.